Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Salut le gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. On a des êtres humains avec nous autres aujourd'hui qui vont nous parler de business. Mais on va parler aussi des humains. C'est ça qui est le fun. Hein? Mm-hmm. On a eu tantôt une belle histoire avec une invitée. Puis moi puis ma co-animatrice qui est encore avec moi aujourd'hui, Marie-Christine Martel.
Allô, Régent. Contente d'être là encore une fois.
Merci beaucoup d'être là. Hey, on a eu une belle rencontre tantôt.
On capotait.
On capotait. Puis je pense qu'on va de l'action. Je pense qu'on va tomber dans le vif de la business.
Moi, je pense même qu'on va être serré avec 50 minutes.
Ah, c'est sûr. Mais Alex, on va t'en réinviter, c'est bien sûr. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je veux juste... recommence ça.
Ah oui?
Mais non, j'ai pas parlé du... C'est 531, calvaire.
Ah, j'ai failli te le dire.
C'était pas bon, là. J'aimais pas ça. Fred, je m'excuse, Fred. Va faire des push-ups. Un petit peu, parce que je veux ouvrir ton site.
Ah, ben oui.
Puis ton LinkedIn, qu'est-ce que je serais mieux d'ouvrir?
Ah, ton LinkedIn. LinkedIn, ça va être bon.
Parfait. Parce que là... Ça, c'est mon guide.
Donc, tu roules avec ça.
Parce que là, quand il y a une co-animatrice, moi, pendant ce temps-là...
Ben oui.
Quand je suis seul, là, c'est quelque chose. Quand ils sont là, c'est le fun, parce que...
J'ai été interviewé par Bernard Drainville avant qu'il s'annonce.
Ah oui.
Je capotais. Il est là, il y a tout sa revue de presse, puis il est là, toc. Puis il te pose la question, il regarde. On va dire, faut que tu switches assez rapidement.
Ah oui, vraiment.
C'était un art. Ouais. Puis là, ben, le jour vert, Alex Bisson, imagine.
Ben, ça va pas bien, là.
Ben non.
C'est pas le bon.
Pour commencer. Fait que. Quand t'es prêt, mon Fred, il manquait rien qu'un air. Salut la gang dans la jungle des affaires, encore aujourd'hui, ben oui. 531e épisode, je capote. On a passé le 500, ça fait pas longtemps. On s'en va vers le 600, bien content. Merci beaucoup la gang, Bronco Marketing, toute la gang, l'équipe Fred et compagnie. Marie qui est avec moi, Marie-Christine.
Allô Régent, merci encore de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Je pense qu'on va avoir une belle entrevue aujourd'hui.
Bien, certain. Puis le plaisir est réciproque, mm-hmm. parce que quand t'es là, c'est le fun. C'est le fun d'avoir une co-animatrice. Alex Brisson, qui est avec nous aujourd'hui, de Nordastello. Tabarnouche, je suis pas pire. Hein?
Bravo.
Hey, tu pensais que j'allais me tromper, là?
Le premier coup, c'est bon.
mais bienvenue.
Merci. Hey, merci de l'invitation.
Bien, Colin, je suis content parce que c'est pas évident, le mercredi de même, en plein après-midi, se déplacer. Puis venir dans nos studios, c'est le fun. Est-ce que tu te sens dans la jungle?
À peu près, oui. Je savais pas à quoi m'attendre, mais là, j'arrive, là, je le sens. Il manque juste le bruit des singes, puis sinon, je suis dedans.
Oui, Fred, mais Alex, c'est lui le singe.
Ah, OK.
Je savais que tu allais dire ça. Ah. Fred, est-ce que tu as retenu qu'est-ce que Alex vient de nous dire? Il manque juste les sons.
Oui.
Parce que là, on est en pourparler de remettre des sons que j'ai déjà eu d'ailleurs.
Ah, d'accord. Ouais.
Okay. Des petits coucou. J'aimais ça, moi. Moi, je suis mon petit cœur d'enfant. Faut qu'il ressorte des fois. T'es-tu d'accord?
Bien d'accord avec toi. Jusqu'à date, là, je te suis.
Excellent. Alex Brisson, CEO. C'est quand même, c'est tout qu'un poste pour une entreprise comme Nordastello. On parlait de quoi, 700-800 employés.
Mm-hmm.
C'est quelque chose. Avant de parler de ça, par exemple, qu'est-ce qu'on veut savoir, nous autres, Marie, des fois?
Bien, en fait, on se demande souvent qui était le petit Alex.
Ah.
D'où il vient, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que comme... On dit en pré-entrevue, je pense que 50 minutes, ça ne sera pas assez pour raconter tout ton parcours, mais rapidement, qui étais-tu comme jeune garçon ou adolescent et tout ça?
Écoute, je viens d'une famille de 7 enfants. Le cadet de la famille, 20 ans de différence entre moi et le plus vieux. Donc, ma mère s'est retrouvée après 5 enfants à l'hôpital, la tuberculose à l'époque, passé 16 mois à l'hôpital.
Hey, bye bye.
Et elle est partie le lendemain de Noël. Après ça, elle est revenue 16 mois plus tard. Il y a mon frère qui est arrivé 7 ans après et moi, je suis arrivé 8 ans plus tard. Donc, comme trois familles dans une même famille, venant d'un petit village de 1000 habitants, C'est pas loin de Montmagny, sur le bord de la ligne américaine.
Berthier? Non.
Saint-Fabien-de-Penet.
Ah, Saint-Fabien. Montmagny.
Il n'y a pas beaucoup qui connaissent ça, mais c'est pas grave. Je viens de là, fier d'être là.
Ben oui.
Un sportif. Écoute, ma vie, pendant très longtemps, a été dirigée sur le sport, sport d'équipe. C'est ce qui m'a amené, puis tout le reste de ma vie est en fonction de ça, l'équipe.
L'équipe
de gagner. On gagne en équipe, on perd en équipe. Mmh. Et malgré les différences, ben, c'est de trouver cette synergie-là qui fait en sorte que quand tu gagnes, là, le trip, il est pas mal plus fort que de gagner tout seul.
Je comprends, oui. Écoute, j'ai hâte que les gens entendent le reste du parcours parce que c'est vraiment exactement ce que tu viens de nous dire, père.
Puis il y a tellement de parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat.
Exactement.
Hein, Alex, on va pouvoir en discuter en masse.
Par rapport à ton parcours scolaire, qu'est-ce qui t'amène après ça aux étapes collégiales, universitaires?
Ben, écoutez, pensionnaire dans un collège privé à l'Apocatière, par la suite, le sport, football. Donc, je me suis retrouvé en Beauce, Saint-Georges-de-Beauce. Jouer au football là-bas.
Eux autres, ils jouent du football.
Ben, oui, c'est ça. Puis je vais te dire, les premières journées que j'étais là, je me sentais petit à travers les Beaucerons.
Ah, oui, sont...
J'ai tellement aimé la Beauce que j'ai marié une Beauceronne.
Ah oui?
Ouais, que j'ai rencontré lorsque j'étais là, mais on s'est revus plusieurs années plus tard. Suite à ça...
Est-ce que tu es encore avec elle?
Oui, oui.
Bon, on va la saluer.
Elle s'appelle Anne Maheu, 33 ans.
Ben voyons donc, félicitations. Bonjour, Anne.
Bonjour, Anne. Bonjour, ça fait plaisir. Ah, oui,
des fois qu'elle nous écouterait.
Exactement ça.
Let's go, Alex. C'est le temps de marquer des points.
C'est ça. Mais j'avais deux passions dans la vie, le sport puis le voyage.
Mm-hmm.
Moi, j'étais intrigué de voyager à travers le monde. J'avais un beau-frère à l'époque qui était mon beau-frère, mais qui ne l'est plus, qui voyageait. Donc, lui, il est ingénieur. Je me suis dit, je vais être ingénieur dans la vie. Ingénieur en quoi? Je ne savais pas. J'ai fait un kit de Radio-Shack fin secondaire, je pense au cégep, un intercom qui n'a jamais marché. Puis j'ai dit, tiens, bon, on va aller ingénieur électrique. Donc, ingénieur électrique, l'Université Laval.
Oui.
Gang de chums, incroyable. On a eu du fun là. C'était, je sais pas, j'ai eu plus de fun que j'ai étudié.
Oui, c'est ça.
Je ne faut pas que je le dise très fort, mais...
T'as le droit.
C'est ça. Et par la suite, je me suis trouvé une job en France. Première job.
Oui,
absolument.
Première job en France?
Ouais.
Wow, c'est une compagnie
canadienne dans la recherche pétrolière. Première fois que j'allais en France de ma vie. Dans mon petit village, il y a même quelqu'un qui avait demandé à mon père si j'étais allé là en char.
Oh,
donc, ça vous donne un peu la perception.
Pas vraiment sa géographie.
Ouais.
Pas tellement, exactement ça. Donc, recherche pétrolière, je vais là, mais je découvre la France, puis voyage les fins de semaine, c'était vraiment trippant. Pendant 6 mois de temps, mais je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Puis le travail que j'étais rendu en Allemagne, donc pas tout à fait ce que je voulais. Décide de revenir au Québec. Mais j'appelle mon père parce que j'avais besoin de encore, tu sais, un peu là, ma génération à moi, pas loin de 60 ans. On avait juste une ligne, hein. On partait d'un point A au point B. Mon père me dit, viens-t'en si tu penses que c'est pas ta destination. Donc revenu.
Puis qu'est-ce qui était pas... Est-ce que c'était plus l'endroit ou c'était le travail qui concordait pas?
Un peu. Au départ, c'était de sortir de mes pantoufles, nos paradigmes dans lesquels on a été élevés,
mm-hmm.
De découvrir le monde qui était vraiment intéressant. Mais le travail, c'était mm-hmm. de la recherche pétrolière. La recherche pétrolière, à la base, là, c'est pas très exotique. C'est... on se promenait. Puis on était deux Canadiens, moi puis un gars d'Ottawa. Ils nous ont mis avec des groupes européens pour apprendre leur culture. Mais on faisait un travail d'ouvrier, puis je me suis retrouvé dans le nord de l'Allemagne, dans boîte, dans la boue, qu'on dit maintenant, jusqu'aux genoux, à installer des géophones. Un géophone, c'est un détecteur sismique pour voir quand on envoie des ondes dans le sol, comment le sol
réagit,
puis là, de voir, il y a des possibilités d'avoir du pétrole ou pas. Donc, on est fin des années 80. Mais si je ne suis pas allé à l'école aussi longtemps que ça pour faire ce travail-là...
Pour avoir les pieds
donc,
dans le...
c'est cela. Donc, reviens. J'ai été chanceux. J'ai fait deux projets d'aluminerie au Québec. Un à Bécancour et un autre à Deschambault. C'était des méga projets, des plus grands projets dans le temps au Québec de construction. Je travaillais pour le propriétaire. Puis là, c'était encore une fois, là, je reviens avec le mot équipe. On a réalisé, c'était un projet avec un début, une fin, un budget... des échéanciers, puis si on travaillait tout le monde ensemble, on réussissait. Puis on a fait deux super beaux projets. Deuxième projet, j'ai décidé à Deschambault de commencer un MBA. Mon épouse Anne tombée enceinte, plutôt que prévu, un petit peu, donc déstabilisée, fin mm-hmm. de la vingtaine,
mm-hmm.
fin de maîtrise à temps partiel. jusqu'à la fin du contrat de Deschambault. Par la suite, je retourne à l'école à temps plein avec un petit garçon qui s'appelle Xavier, qui a 31 ans actuellement.
On le salue.
On le salue, hein? Donc, on va saluer toute ma famille en passant.
Ben oui.
Et fini un MBA, décide que je suis un entrepreneur. Donc, je pense que je suis un entrepreneur à l'époque. Je vais voir le service de rectorat à la recherche et développement de l'Université Laval. On met en association avec des professeurs pour faire partir une business, le projet d'hydrolienne. Les hydroliennes, qu'est-ce que c'est? C'est des petites éoliennes qu'on met dans l'eau, au fil de l'eau, qui génèrent de l'électricité. Donc, fait un plan d'affaires, mais on arrête au plan d'affaires. Donc,
ça se concrétise pas.
Ça se concrétise pas, mais j'ai appris énormément du point de vue de la business. Me retrouve chez Roche après, Roche qui est devenu Nordostello, et impliqué dans des projets d'usines de panneaux composites en Ontario, avec des partenaires à Toronto et d'autres partenaires d'ingénierie à Vancouver, des entrepreneurs, des fournisseurs en Allemagne, en Italie, aux États-Unis.
Ça parle en anglais tout le temps là-dedans?
Tout
là.
Le temps. Et c'est là que j'ai appris mon anglais.
Ben oui, parce que le petit gars de Montmagny...
À la dure.
Je vais vous dire de quoi, là. Dans le temps, il y a une chose qu'il y avait des fax parce qu'il y avait des appels conférences, je ne comprenais absolument rien.
Ah. Saint-Fabien de Panay, il parle pas anglais, ben.
Pas ben. Exactement ça.
Je me reconnais là-dedans.
Tu te reconnais là-dedans?
Oui, moi aussi, j'ai appris l'anglais sur le tas.
Ah oui, vraiment sur le tas. Exactement ça. Mais puis, j'ai fait ça pendant 4-5 ans et j'ai eu la chance de côtoyer les gens seniors de notre organisation. Puis je racontais ça la semaine passée, j'étais à Vancouver, puis mes premières années, là, je partais, j'allais travailler à Vancouver, j'allais travailler à Toronto, comme si on va travailler à Montréal. Donc, on arrivait, on partait de Québec, 5 heures le matin, on arrivait à Vancouver à 10h30, 11h. On travaillait jusqu'à 11 heures le soir, heure de Vancouver, puis on mangeait des sandwichs croûtés, tout retroussés, retroussés, comme on disait. Là.
Des croûtes.
Ouais. Alex, pour juste situer nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer exactement Roche, c'est quoi, puis qu'est-ce qu'ils font pour que tout le monde comprenne?
C'est une firme d'ingénierie multidisciplinaire qui a 60 ans aujourd'hui. À l'époque, fin des années 80-90, c'était une des plus grandes firmes d'ingénierie au Québec. Mm-hmm. Tu avais Lavalin, SNC, Roche était comme la troisième, siège social à Québec. Belle entreprise qui a vécu des hauts, des bas, mais qui était, c'est un joyau de l'ingénierie québécoise qui est parti avec M. Rochette et Rochefort, donc le nom Roche. C'est des gens qui étaient vraiment spécialisés dans le domaine des routes. Encore aujourd'hui, on fait du design de routes, de ponts, conception, mais c'était le créneau dans lequel on était le plus fort. Et nous, ce qu'on faisait, c'était, dans l'autre version de l'entreprise, c'était des usines de panneaux dans le domaine industriel. Donc, on prenait des panneaux composites du bois et on faisait des panneaux structuraux pour faire des maisons ou pour faire des bâtiments. Donc, entreprise, et c'est là que j'ai fait ces deux projets-là. Premier projet qui a vraiment bien été, beaucoup de plaisir. Deuxième projet, vraiment très, très mal été à Pembroke, en Ontario, positionner Pembroke, l'autre bord d'Ottawa, Rivière-Outaouais, 1h30 plus tard, une usine dans laquelle l'entreprise, on l'a échappé complètement, avec beaucoup de garanties. L'entreprise s'est retrouvée en difficulté financière. Notre partenaire à l'époque dans ce projet-là a fait faillite. Et on s'est retrouvé avec des avocats. Beaucoup, beaucoup d'avocats qui ont travaillé sur ce dossier-là. Des pertes vraiment importantes.
Là, on est dans quelles années, là, à peu près?
Fin des années 90.
OK.
Et l'entreprise s'est retrouvée en difficulté financière. Donc, a été vendue à un groupe américain.
OK. Sûrement un gros apprentissage. Tu sais, ces moments-là, souvent, c'est là qu'on apprend le plus, malgré tout.
Vraiment. C'est là que j'ai appris à savoir les après-projets, travailler avec des avocats, travailler avec des comptables. Et de tout l'envers du décor, c'est là qu'on a commencé ma formation sur quand ça va pas bien.
Gestion de crise.
Gestion de crise, il y a toujours une possibilité de s'en sortir.
Voilà. OK.
Ah, j'aime ça. Mmh. Hein? Il y a toujours une possibilité de s'en sortir.
Non, mais c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on ressort les plus forts. Là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mmh. Alors, merci pour un peu plus situer justement des gens comme moi là, qui ne sont pas dans ce domaine-là. C'est pas tout le temps clair. Là. Pourtant, c'est des entreprises qu'on entend parler, c'est des noms connus. Mais qu'est-ce qu'ils font juste?
On dit il y a des ingénieurs. Tu sais, les gens savent, ils disent bon, c'est une gang d'ingénieurs.
On est poli quand on dit ingénieur comme ça. Il y a d'autres fois, on les appelle autrement.
On dit ingénieur.
Oui, c'est ça.
On n'est pas fin quand on dit ça.
C'est ça.
Mais ça, c'est un petit côté jaloux que les gens y ont des ingénieurs. Parce que c'est des gens brillants quand même. Ils ont une belle scolarité.
Je pense pas qu'on soit plus brillant que le reste de la population.
Non, je dis pas plus brillant, mais je veux dire, comprends pas. On peut pas dégrader ce
mot. Il faut pas.
Non, faut pas, exactement. Parce que pas d'ingénieur, ben, il se passerait rien.
T'as bien raison.
Tu sais, honnêtement. Puis on parlait, cette semaine, je parlais avec des gens pour les troqueurs.
Mm-hmm.
C'est niaiseux, là. Là, on parlait de scolarité et tout ça, mais il y a des troqueurs qui n'ont pas beaucoup de scolarité. Mais si on n'avait pas de troqueurs demain.
Non,
là,
non, c'est ça. Tout le monde est.
On est mort.
Fait que là, on se
Roche
retrouve.
Devient. C'était là. Oui. C'est quand on était rendu là.
Non.
On arrive,
non?
Les États-Unis arrivent, les Américains vous achètent, vous récupèrent.
Oui.
Et là.
Donc, on,
l'après.
On se rachète en 2005 avec le dernier groupe américain. Ça ne fonctionne pas très bien. Ils nous mettent sur le marché. On décide, deux gars, pour commencer, moi qui viens d'avoir 40 ans, pas une scène dans mes poches, avec une hypothèque puis deux maisons, deux enfants à la maison. Donc, on rachète l'entreprise avec un autre et on a monté un groupe. On a monté un groupe pour faire ce qu'on appelle un management buyout. Ce que ça veut dire, c'est un groupe d'employés qui rachète l'entreprise.
Mm-hmm.
Donc, on est allé rencontrer les Américains avec un groupe. On a monté un groupe de 7 qui était majoritaire.
Clés aussi dans l'entreprise?
Oui, des personnes clés. Mm-hmm. Donc, on a intéressé d'autres employés et on a fait des offres, une offre aux Américains qui a été sur un long processus. Et on a réussi à se racheter en 2005, je sais plus trop la date, là, été 2005. Donc, un groupe avec un chiffre d'affaires à ce moment-là d'à peu près 65-76 millions de dollars, avec des belles perspectives. Puis, on se retrouve dans une période d'effervescence au niveau des infrastructures.
Oui.
Beaucoup, beaucoup d'investissements.
C'était le bon temps.
Mm-hmm. Exactement ça, dans la bonne, dans les façons de faire du temps. Cette entreprise-là passe de 70 millions à près de 200 millions entre 2008 et 2013. Toute une croissance.
Quand même.
Vraiment
une croissance. À quel moment le changement de nom se fait? Est-ce que c'est dans...
Plus tard.
OK, c'est plus tard. Là, vous êtes encore sous le nom de Roche. Puis votre siège social, à ce moment-là, part des États-Unis, revient à Québec, c'est bien ça?
Absolument.
Ici, dans la ville de Québec, où est-ce que vous êtes encore aujourd'hui?
Tout à fait.
C'est ça, parfait.
OK. 2010, perquisition chez nous, au mois d'avril 2010. Des gens qui débarquent à notre bureau de Québec, bureau de Montréal, bureau de Chicoutimi. On fait les manchettes. Roche, anguille sous Roche. Puis, là, ça s'est mis à déraper totalement. mais on ne sait pas ce qu'on a. Ça a pris comme 2 ans avant de savoir exactement ce qui s'est passé. Puis là, ben, je vous ramène à la commission Charbonneau.
Mmh.
Donc, Roche, à ce moment-là, est sur la sellette, à peu près dans tout ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de nos ex-employés qui ont témoigné à la commission Charbonneau. Mmh. Et on a fait l'émission enquête. Écoutez, là, il y en avait dans les journaux. On a plein de... On les garde pas, là, on les brûle, ces mmh. articles-là. Mais il y en a eu énormément. Et qui a fait en sorte que moi, en 2013, j'ai été remercié par le président qui est en place. Pendant un mois, je me suis retrouvé à la maison. Un mois plus tard, je reviens, les actionnaires, parce que l'entreprise est tenue par des employés, un groupe d'employés, me ramène comme directeur général et un mois et par la suite, comme président, directeur général de l'entreprise, CEO.
OK. Là, ça a été vite, là.
Oui.
Mais si, mettons, on veut se situer dans le temps, la commission Charbonneau arrive. Qu'est-ce qu'on vous reproche au juste? Ils cherchent des poux?
Non. C'était le bon temps, là, tantôt, comme Régent a dit. Il y avait des façons de faire à ce moment-là. Il y avait
des cadeaux,
du financement.
Des tapes dans l'épaule.
Du financement politique, des rencontres. Qui était, je dirais, de fait généralisé, sauf qu'il y a quelques entreprises qui ont été ciblées et on était une de celles qui a été ciblée vraiment.
C'est parce que Marie-Christine, dans ce temps-là, elle n'écoutait pas la télévision.
Ben, c'est pour
ça. Elle travaillait fort dans sa
c'est
business.
C'est vrai, mais je le suivais pareil. Je l'ai suivi, la commission Charbonneau, mais qui a finalement abouti à pas grand-chose de clair. Là. Mais bref, vous passez cette crise-là et là, il y a un conseil d'administration qui gère l'entreprise qui dit « OK, Alex, là, c'est assez. Va te reposer. » Il arrive cette journée-là. Puis qu'est-ce qui amène ça? C'est l'animosité de la commission Charbonneau? C'est que...
OK. Lorsque j'arrive, je reviens de la Nouvelle-Calédonie, je suis allé travailler à l'étranger une couple d'années.
Oui, c'est ça. OK, il manque ce bout-là.
Exactement.
Très important.
2010, je quitte, je m'en vais travailler en Nouvelle-Calédonie. On a un bureau, on a une prise de participation dans un bureau. La Nouvelle-Calédonie, c'est une île dans le Pacifique où on retrouve les réserves de nickel mondial, 40 % des réserves de nickel pur mondial. Donc, on a un bureau là-bas parce qu'on accompagne nos clients et je m'en vais faire développer ce bureau-là pour accompagner les grands clients miniers qui se retrouvent là. Mm-hmm. Donc, je pars en 2010, je reviens en 2012. Entre 2010 et 2012, il y a eu la perquisition. 2012, il y a du bruit de corridor, mais il n'y a pas d'accusation qui est encore portée contre Roche, contre l'entreprise. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, nous, à l'interne, au conseil d'administration, on se pose des questions, on n'a pas de réponse, mais on a une gouvernance qui n'est pas saine. C'est un peu n'importe quoi. C'est le boys club qui est là, qui se pose des questions. On pose des questions, on n'a pas de réponse, on ne réagit pas. Donc, mauvaise gouvernance. Je dirais, là, si on regarde ça en rétrospection, on se dit, on n'avait pas une bonne gouvernance, donc on a des choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas faites. Qui m'a amené à mon congédiement, pas par le conseil d'administration, par le président, le CEO qui était à l'époque notre président, et qui l'a fait sans l'accord du conseil d'administration.
OK.
Okay.
Bon. Il avait le droit de faire ça tout seul sans passer par les...
Ben, c'est tout. C'est là que la game s'est passée.
C'est ça. Bon.
OK. Je repars, donc reviens.
Comment Alex se sent à ce moment-là quand que on t'envoie chez toi? Qui fait que, au lieu de dire, moi, je quitte tout, je change de carrière, je m'en vais sur une plage faire du banjo, puis là, le moment où tu dis, non, moi, je reviens, puis je rentre dans l'entreprise, puis je vais détrôner celui qui m'a mis à la porte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête?
C'est la question. La première question,
elle
c'est...
Elle pose de bonnes questions.
Elle pose des bonnes questions. Reste là, hein, c'est bon.
Oui, j'aimerais ça la garder, mais tu sais, on manque un peu de budget.
Ah, c'est pour ça.
Ça nous prendrait un bon commanditaire.
Ah, OK, c'est correct.
Moi aussi, j'ai un business à rouler.
Oui, je comprends ça. La première question que je me pose, c'est de dire, OK, là, je viens de me faire lyncher, c'est correct. Par contre, si je ne réagis pas, je vais devenir le bouc émissaire.
Oui.
Parce que, à quelque part...
Si je ne mange pas, je vais me faire manger.
C'est exactement ça.
Dans la jungle.
Ça, c'était vrai. C'était bon, ça. Je l'aime, celle-là.
Oui.
Donc, ça, c'était mon premier réflexe parce que j'ai dit, je vais devenir... C'est moi qui vais être la brebis sacrifiée.
Mm-hmm.
Le deuxième, puis je l'ai rencontré un gars qui s'appelle Rémi Tremblay. Rémi...
Tu connais bien Rémi.
Oui, on connaît très bien Rémi.
Ah, bon, ben Rémi...
Maison des leaders.
On le salue.
Oui. Ah, c'est ça. Mais son garçon et mon garçon, c'est deux bodés.
Ah oui?
Vraiment, des grands chums. Ils viennent d'avoir des enfants à peu près à 2 mois de différence. Donc, mais je vais voir Rémi, puis je pose la question, puis j'explique ça. Il dit, pourquoi tu retournerais? Dans le fond, vous avez dû vous parler avant, là. Ben, j'ai dit, pour la gang.
Ah.
Parce que ces gens-là... Ils n'ont pas de raison d'avoir à subir ça.
Donc, c'est pas leur faute, là.
Non, vraiment pas. Donc, c'est pour ça que je suis... Pour deux raisons. La gang, puis moi, parce que je me dis, si je fais rien, qui va le faire? Puis en même temps, mon nom, là, une réputation, c'est long à bâtir. Hein.
Je comprends.
Facile à détruire.
Donc, c'est pour ça que je suis revenu.
Alors, Alex revient dans l'équipe. Est-ce que ce CEO-là... quitte l'aventure ou il peut...
Il est resté, je reviens, il est resté 2 mois et il a dû quitter l'aventure.
À un moment donné, on ne peut pas avoir deux tigres dans la même cage.
Ah, tu as tout compris.
C'est ça. OK.
OK. Donc, mais je reviens en disant au conseil d'administration, je dois avoir carte blanche pour faire ce qui est requis pour pérenniser l'entreprise. Et de remercier des personnes qui vont devoir être remerciées. Ma responsabilité, ce n'est pas de juger si ces personnes-là sont coupables ou pas. Ma responsabilité, c'est de s'assurer que c'est les personnes qui vont devoir rester, c'est celles qui vont nous permettre d'aller plus loin.
OK. Et là, à ce moment-là...
Un genre de ménage, là.
C'est ça.
Ouais. Pas le fun, ça.
Non, vraiment pas le fun. Okay.
Puis là, à ce moment-là, parce que ça a fluctué là, justement dans le temps où ce que l'économie est bonne, puis là, à un moment donné, c'est plus tough au niveau des projets. Est-ce que là, c'est une bonne période économique pour fructifier ou c'est plus difficile?
Il s'est passé
2013-2014. Ouais. Il s'est passé 3 éléments. Il y en a un que je suis responsable, les deux autres, ben, c'était l'économie. Le premier, bon, tu as eu toute la notion de la commission Charbonneau qui a eu un impact. Le deuxième, à ce moment-là, le prix des métaux, il y a eu comme une crise au niveau du prix des métaux, donc il y a eu une baisse. Et normalement, ben, historiquement, lorsque le prix des métaux baisse, il y a moins d'investissement. Et le troisième, et c'est là que je suis responsable, j'ai voulu aller trop vite.
Mm.
Et ce que j'ai fait, moi, je savais je ne me suis jamais séparé, mais ce qu'on m'a dit, c'est que les gens qui se séparent, ils savent ce qu'ils ne veulent plus avoir dans le futur, mais ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent. Mmh. Donc, moi, j'étais mon leitmotiv au départ au niveau ma gestion, c'était de briser les silos et de ramener tout le monde à travailler ensemble. Donc, j'ai implanté, avec conseiller, une structure matricielle qui est théoriquement, ça, c'est génial, mais dans la vraie vie, c'est vraiment difficile.
Ça s'applique peut-être pas autant que sur papier.
Et surtout dans un moment de crise. Mmh. Parce qu'une structure matricielle, tout le monde est dépendant de tout le monde, mais il n'y a personne qui décide.
Non, c'est ça.
Donc là, on s'est retrouvé...
horizontal.
Exactement ça. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on implante ça, les gens sont perdus, résistance au changement, puis en même temps, on vit une crise financière. Donc là, ça tenait plus la route.
Non.
Donc, et parce que j'ai voulu vraiment aller trop vite là-dedans, si c'était à refaire, mais regarde, on peut pas...
On change pas le passé,
il faut apprendre de ça.
Et voilà.
Donc, ça nous a amené à avoir une baisse de revenus très importante, un peu comme je mentionnais tantôt. On est passé de près de 200 millions de dollars à 70 millions, 65 millions entre 2013 à 2016.
Le step qui avait été fait, il est
à l'envers. On est passé de 1800 employés à 600.
Ouais, quand même.
Donc, on se retrouve un des pires moments, c'est je me retrouve dans une salle. J'ai à peu près 300-400 employés en face de moi. Je suis le seul à regarder d'un côté, puis tout le monde regarde de l'autre bord pour annoncer qu'il y a 150 personnes qu'on met à pied.
Mmh.
Et qu'on dit aux autres, ben, on réduit la semaine de travail. On fait des mises à pied, mais vous allez vos semaines de travail qu'on vous paie, vous allez les travailler. Donc, ça, c'est une très, très mauvaise idée. Encore une mauvaise idée que j'ai eue.
Mais c'est correct. Ça te permet aussi de les voir, hein,
ben
oui,
comme on dit. Absolument. Mais et là, tu te rends compte qu'humainement, là,
c'est tough.
On a oublié l'humain. C'est qu'à un moment donné, quand tu es dans la crise puis tu es dans le vortex, là, la pire des choses à faire, puis c'est t'oublies l'humain. Là, tu gères des crises.
T'es froid.
C'est
froid. Plus froid.
Ben, c'est ça.
C'est rationnel. Donc,
j'ai un de mes garçons qui me disait que j'étais devenu psychopathe. Il dit, ben, ouais. Il dit.
Non, mais c'est parce que tu penses tout le temps. Pis,
ben, tout le temps.
Puis t'oublies, comme tu dis, Alex, t'oublies l'essence première qui est l'être humain là-dedans. Hein? C'est ton capital humain.
Exactement ça.
Mais c'est normal, il y a bien d'autres employeurs, entreprises qui auraient fait comme toi. Là. C'est pas...
Moi, je veux juste mentionner quelque chose. Excuse-moi de t'arrêter, oui, mais tu m'impressionnes par ton humilité.
Ouais.
Tu te nommes là, comme à froid. Tu
as fait des erreurs.
Tu es capable de dire que tu as fait des erreurs. Peu de gens sont capables de le faire à la hauteur de ce que tu nous permets d'entendre. Excuse-moi, tu peux continuer.
Non, c'est un très bon point.
Oui, mais ce que tu te rends compte, c'est que la ligne entre le succès et l'échec, là, elle est très, 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 très mince. Donc, tantôt, là, il y en a qui se gargarisent du succès puis c'est des gourous, peu importe. Du jour au lendemain, tu peux flipper de l'autre côté.
Ouais.
Et quand tu flippes, là, ben c'est là que tu le réalises. Puis après ça, tu n'oublies plus jamais ça.
Mm.
De dire, j'ai passé vraiment là, j'ai fait les mêmes efforts, le même travail. On a réussi, mais si tu ne réussis pas, ben, ça te traîne le restant de ta vie. Donc, l'humilité fait partie de mon bagage aujourd'hui.
Mais c'est bon que tu le dises, parce que pour un entrepreneur en ce moment qui nous écoute, là, qui vit une crise, là, souvent, il va la vivre seul. Hein, parce que moi, je suis un entrepreneur, puis quand je vis une crise, je ne crie pas ça sur les toits. Mais on dirait que c'est rassurant de se dire, ah ben regarde, à la hauteur des 100 millions, peu importe que tu as géré, tu es capable de te dire que hey, ça n'a pas toujours été facile. Là. Ça a été tough. Là. Puis là, ce bout-là, on a failli faire faillite. Puis là, j'ai racheté, puis je me suis fait mettre dehors. Puis tu sais,
on dirait que
ouais, ça nous apaise en tant qu'entrepreneur de se dire que c'est vrai, dans le fond.
Tout à fait. Exactement. Ben, écoute, merci du commentaire, c'est bien de préciser.
C'est nous autres qui te remercient.
Ouais.
C'est les gens qui écoutent.
Ben oui,
Parce que les gens qui écoutent, ils vont. Je sais, moi, j'ai reçu des courriels. C'est ça qui est le plaisant aussi, de recevoir des courriels. Puis continuer de m'en envoyer. Puis c'est ça que les gens me disent. Waouh, quel homme, waouh, quelle femme. Tu sais, de par justement l'humilité, puis bon, passer au travers
des épreuves.
Des épreuves.
Fait que là, à ce moment-là, là. Prendre l'histoire où est-ce qu'elle était.
Là, je ne sais plus où est-ce que je suis
rendu. Avec son doigt.
Ah oui, j'ai compris. Oh.
À ce moment-là,
on décode des traits de caractère. Là, hein?
C'est le noir, hein? Oublie pas ça. Là.
On a vécu une crise. On se rend compte qu'on a oublié l'humain. On en était rendu là. Que Fiston a dit, hey, papa, là, tu l'échappes un peu.
Ouais.
Je ne veux pas réutiliser son terme. Je trouvais ça fort un peu.
Ouais.
Puis là, est-ce que l'entreprise s'appelle encore Roche ou on a vraiment changer le nom? C'est, ça s'en vient, là?
C'est là que je m'en viens.
Parfait. Puis,
c'est là que l'histoire, elle devient toute belle.
Croustillante.
C'est que lorsque j'arrive en poste, on a une vision, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Tu sais, une vision, tu es dans le brouillard, il y a de la brume, il vente, il fait tempête, il pleut.
T'es sur le radar, mettons.
Mais puis tu rencontres tes gens, tes employés, faut que tu leur dises que ça va pas bien, mais en même temps, si tu leur dis que ça va pas, ça va vraiment pas bien, ils vont tous partir du bateau.
Ben oui, absolument. Ils vont débarquer.
Donc, et c'est de là que j'ai commencé, à chaque fois que j'ai rencontré les employés, puis je les rencontrais régulièrement, on a notre étoile du Nord. Voici notre étoile du Nord. Il faut suivre notre étoile du Nord. On est dans tempête. Si on continue, on va y arriver. Étoile du Nord, dans une langue, la langue espéranto, qui est une langue qui a été créée par l'être humain au 18e. C'est Nordastello.
Ah, Stello.
Ben, c'est Nordastello. Donc, c'est là que le changement de nom a été fait parce que la pression médiatique, on était vraiment dans une crise médiatique. Il a fallu changer de nom, mais changer de nom pour ABC. On est arrivé et notre personne aux communications de l'époque que je salue, Christine, qui travaille maintenant chez TAC, Christine, elle nous est arrivée avec ce nom-là. Nordastello, on a fait comme wow.
Mm.
It makes sense. C'est ça, ouais. Ça a du sens, ça a une signification, il y a une valeur. Exactement.
T'es encore dans la gestion de crise avec TAC?
Ben oui, exactement ça, c'est en plein ça. Donc, on est arrivé avec Nordastello. La réaction d'à peu près 40% de dire ce que vous faites là, c'est quoi ça, ce nom-là, n'importe quoi. Mm. Nous autres, c'est Roche, on veut garder Roche. Mais on nous avait dit que ça va prendre 2 ou 3 ans.
Ouais.
Puis à un moment donné, le nom Roche, parce qu'au début, on disait Nordastello, anciennement Roche. Mais là, aujourd'hui, c'est Nordastello. Ça n'a plus de besoin et ça a un sens. Parce que où est-ce qu'on est rendu? C'est vraiment notre étoile du Nord.
Ah.
Donc, c'est de là que vient le nom. Puis ça, ça a été fait quelque part en fin 2015, début 2016, parce que... Mais c'est encore, c'est la continuité de ce qu'on faisait.
Fait que la roche s'est transformée en étoile filante.
Hey, wow! C'est beau, ça là. J'aime beau, ça.
Voilà, j'ai traîné les rangs.
Oui, c'est ça. Hein?
Mais c'est bon parce qu'on a un fil. Moi, ce que j'aime avec Marie-Christine, dans une entrevue comme ça, c'est qu'avec un gars comme moi qui en aime, avec un gars comme toi qui a le vécu, on pourrait se perdre complètement. Ce qui est le fun, on parlait du Nord, là, elle nous ramène, tu sais. Puis nos auditeurs, ben c'est eux autres les grands gagnants de ça parce qu'ils suivent l'histoire. Là. Sinon, ils vont dire, mais on sont où, Réjean puis Alex?
Oui, c'est ça. Mais là, je vais continuer puis je pense que je vais juste en piquer.
Et
comment on s'en est sorti?
Oui.
Puis c'est notre VP à l'époque qui était Ressources et Industrie, Eric. Il me dit, Alex, il dit, on va s'en sortir en déterminant les valeurs de l'entreprise.
Oui, la mission, les valeurs.
Ah, ouais. T'en as fumé du bon, mon Eric, là. Vraiment, comment qu'on peut faire ça? Et ce qu'on a fait, on a mis 50 personnes, 50 employés, choisis de façon pas disparate. Tu sais, vraiment, on parle de diversité.
Un vrai
là.
Hasard. Là.
Un vrai, plus ben... que ça. De réfléchir, des jeunes, des moins jeunes, des différentes régions. On les a mis dans une salle pendant une journée de temps et on leur a dit, vous allez déterminer les valeurs de l'entreprise sur lesquelles ça va devenir nos fondations pour le futur.
Wow!
Qu'est-ce qui est ressorti de là?
Il y a 6 valeurs qui ont été établies. Et à la fin de la journée, je me suis engagé à dire, écoutez, voici maintenant, moi, j'achète. À partir de maintenant, je vous mets au défi. Si vous voyez que j'opère, je fais mon travail en ne respectant pas, voici mon numéro de téléphone, la porte est toujours ouverte, venez me voir. Et je vais m'assurer que l'équipe de direction soit là. Donc, la première valeur, c'est l'excellence. Tout notre job, là, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients. Si on n'est pas excellent, c'est pas bon.
Un peu comme un médecin.
Tout à fait.
Tu fais
un... Tu veux pas te faire botcher ta chirurgie.
Tu fais une chirurgie, il faut que tu sois imparfait.
Comme votre travail aussi. Si vous étiez pas bon, c'est pas excellent. Là.
Oui.
Mais moi, je suis parfaitement imparfaite, par contre.
Ah oui, mais l'excellence, c'est pas la perfection.
Non, mais je fais des blagues.
Oui.
Moi, je vais dire, je suis très imparfait.
OK, c'est
l'excellence,
bon.
L'excellence, en premier.
Le respect.
Le respect.
Hein, respect humain, respect dans une crise. L'innovation.
L'innovation.
Faut innover.
Faut grandir.
L'intégrité.
Mm-hmm.
La confiance. Puis l'adaptabilité. Tu sais, dans ce qu'on vit, là, si on n'est pas capable de s'adapter, là, on va mourir.
Faut être caméléon.
Parfait.
Oui.
En tant qu'adaptabilité, vous avez passé, comme tout le monde, une crise qui s'appelle la pandémie.
Ben oui.
Comment ça s'est passé, ce bout-là?
Ça a été super.
Sûrement, parce que vous n'avez pas été affecté comme, mettons, un restaurateur ou...
Non, t'as peu, là.
Parfait.
Mais c'est vrai, mais au lieu de subir la pandémie, on s'en est servi comme accélérateur.
OK.
Nous autres, on s'est dit, OK, il se passe de quoi? Puis quand tu regardes les études McKinsey, n'importe quoi, tu dis, on a le choix de le subir ou de se réinventer.
Mm-hmm.
Puis on a fait la réingénierie complète de notre organisation pendant la pandémie. On s'est mis à parler à nos employés tous les matins. Donc, un groupe de 800 personnes, à tous les jours, nos employés, on leur parle et ça vient jusqu'à moi. Donc, on appelle des scrums, ça dure 15 minutes. Tu sais, pendant la pandémie, tout le monde était chez eux. Donc, le matin, 8 heures, ça part Zoom, Teams ou peu importe. On parle à l'employé, 10 minutes, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tes préoccupations. Lui, il reparle, le chef d'équipe parle à son gestionnaire et remonte à moi. Donc, on s'est mis à faire des war rooms, des sprints. Ça, c'est tout notre développement organisationnel, c'est de dire comment... On veut, tu sais, on a un plan d'affaires, on veut le matérialiser. Comment on implique nos gens autour d'une table? On fait des projets à courte durée avec des objectifs. On se permet le chaos tout le temps, mais de nous faire avancer. Et ça, là, ça a été pour nous exceptionnel.
C'est l'écoute aussi de tes membres, mm-hmm. hein, l'écoute de ton équipe, les questionner, puis les impliquer dans leurs réponses, puis les écouter après ça à votre tour, les réponses.
Tu dirais-tu que si cette espèce de pré-crise avant COVID n'était pas arrivée puis que vous n'aviez pas fait justement la liste de vos valeurs puis d'établir votre stratégie, ça aurait été comme catastrophique. Là.
Absolument. C'est que
vous étiez comme blindé là, pour passer à travers ça grâce à cette...
Ouais.
Tout à fait. Ouais. Absolument.
Peut-être qu'il n'aurait pas passé.
Peut-être. Non, mais puis c'est là que ce qui ne tue pas rend plus fort. Là.
Mm-hmm.
Mais c'est vraiment ça. Donc, de tout ce qu'on a appris à travers cette crise-là, bien, nous a permis de nous repositionner dans un mode de collectif, donc de travailler avec des employés, en amenant l'innovation. Aujourd'hui, bien, on parle de ESG chez nous, l'environnement, le sociétal, la gouvernance, mais c'est pas à la mode. En 2019, avant que tout ça arrive, là, on a décidé de devenir une entreprise à impact. Donc, en fonction des défis qu'on a dans notre société, tant au niveau sociétal qu'au niveau environnemental, parce que là, en environnement, tous les jours, on voit des catastrophes, là. Comment, par notre rôle, on peut avoir un impact?
C'est bon.
Parce que comme c'est ingénieur, là, ben, c'est ça, exactement ça. Puis c'est là que notre fil conducteur est là. Puis nous, ce qu'on a décidé, c'est comment, tu sais, on le voit qu'à chaque année, là, à partir du mois d'août, septembre, là, on commence à emprunter sur notre planète parce qu'on consomme beaucoup trop. Nous, on s'est dit comment, en travaillant sur les infrastructures existantes, peu importe les infrastructures, si je suis capable de donner une vie additionnelle à cette infrastructure-là. Mm-hmm.
À place de l'acheter aux poubelles.
Ben, exactement. J'ai pas besoin de la remplacer. Donc, on va avoir un impact.
Je comprends.
Et notre modèle aujourd'hui, là, tout est là-dessus. On a décidé, on a laissé des portions de business. On a mis ça de côté complètement. On a laissé beaucoup de millions de dollars, mais vraiment de se consacrer là-dessus.
OK. Puis là, on se retrouve en 2023. Ça fait 30 ans, je pense, que tu es à la tête, au cœur ou dans cette entreprise-là. Puis là, on a passé ton parcours, on va se le dire, tumultueux.
Mm-hmm, absolument.
Puis là, il y a une famille autour de ça. Il y a une femme
qui
a des enfants qui vivent avec toi. J'ai le goût que tu nous parles de justement ces merveilleuses personnes qui t'ont accompagné là-dedans. Qui sont-ils? Que font-ils?
Écoute, c'est... j'avais deux dans ma vie, deux amours, ma famille, mon épouse, mais mes deux enfants, ça a toujours été là, puis j'avais le travail.
Mm.
Puis à un moment donné, le sport a été transféré dans le travail. Ça, j'ai essayé toujours de trouver un équilibre, très difficile.
Mm. Moi, savez-vous, sais-tu qu'est-ce qu'il disait, mon grand-père? Il disait, gère pas ton équilibre, essaye pas ça, gère ton déséquilibre.
Oh, c'est bon ça.
Fait que moi, j'aime ça parce que je me dis tout le temps, puis un peu comme tu partais pour te dire, t'es déséquilibré, ouais, puis... Gère-les comme faux, par exemple.
T'as raison.
En tout cas.
Ah, c'était mon bon grand-père. Ça. Mais je vais la garder, celle-là.
C'est bon.
Moi, dire c'est le grand-père de quelqu'un que je connais qui m'a dit ça.
Non, mais tu trouves que c'est ton grand-père.
Exactement.
Tu feras comme moi.
Ben oui, c'est ça, c'est en plein ça. Mon épouse Anne, c'est ma collègue, c'est mon amie, c'est la femme de ma vie, là. Tu sais, ça fait 33 ans, on a passé beaucoup, beaucoup de choses, ben, comme tout le monde. Mais il y a eu une complicité là-dedans avec des hauts puis des bas.
Ben oui, c'est ça.
Des hauts puis des bas, mais elle a toujours été là.
Es-tu dans le même domaine? Es-tu ingénieur aussi?
Pas du tout. Infirmière. Maîtrise. Et quand on est allé en Nouvelle-Calédonie, puis là, tout le monde des infirmières, là, on sait qu'avec le milieu de la santé, il y a beaucoup de pression.
Ben oui, puis elle, la pandémie, elle l'a subi, là.
Être en santé publique. Mais quand on est parti en Calédonie en 2010, Elle m'a regardé, elle dit ça veut dire quoi ça? Ben, que tu veux? Elle dit je veux plus travailler. Ben, c'est parfait, je ne travaille plus.
OK.
Donc, elle a refait des projets. Elle était beaucoup impliquée avec les sites d'injection puis toute la partie sociale au niveau de la santé publique.
Oui, c'est ça.
Donc,
plus,
beaucoup, exactement ça. Donc,
femme altruiste?
Énormément.
Ben oui, des femmes qui.
Elle m'a appris énormément.
Il faut y prendre soin des gens.
Mm-hmm. Oui, exactement ça.
Le donc... principe 9 de Dale Carnegie, tu t'en rappelles-tu?
Non, je ne sais pas par cœur.
Voyons, je l'ai dit tantôt.
Ah,
oh,
OK.
Laissez l'autre grand.
Oui.
Ils sont bons là-dedans, eux
autres. Oh, vraiment.
Tu vois comment on est philosophe, hein?
Hey, vous êtes Alex. Là, franchement, là, vous m'impressionnez.
Imagine si on avait un gros commanditaire majeur.
Ah, oui.
Hey, je le pose-tu assez, mon spot?
Quand même.
Je veux que tous mes auditeurs comprennent qu'on aimerait ça avoir un gros commanditaire.
Majeur,
comme ça, Marie-Christine pourrait prendre plus de congés.
Je pourrais engager Marie-Christine de temps en temps.
C'est ça.
On fait des blagues, mais on a parlé de Xavier, puis
oui,
il y a
William.
Un autre. Il y a, OK, c'est ça, deux garçons.
Oui, on
n'avait
pas le nom. On
c'est
avait
ça.
Pas.
Exactement ça. Donc, écoute, nous autres, puis une passion qu'on a, que j'avais à l'époque, c'est de voyager.
Oui, tu l'as dit.
Donc,
oui,
pour
oui.
nous, pour les enfants, ça a été... les personnes qui m'ont transformé le plus dans ma vie, après mon épouse, c'est mes deux enfants.
Ah oui,
c'est
vraiment.
C'est des
grands
enseignants.
Ah, vraiment, parce qu'ils m'ont sorti de mes pantoufles big time, puis dans mes paradigmes dans lesquels j'ai été élevé. Moi, sans être... s'il était là, il dirait oui, mais sans être extra-origine, il y avait quand même un départ, puis il y avait une fin. Mm. Hein, puis je pensais que la ligne droite, c'était le chemin.
Oui.
Mais ils m'ont appris que, puis comme non. dans le travail, c'est, écoute, le plus court chemin de deux points, c'est pas une ligne droite.
Non, c'est ça.
Donc, deux enfants qui ont voyagé énormément, qui ont vécu à l'étranger beaucoup, qui ont eu des parcours d'un point de vue scolaire correct. Puis correct, oui, parce qu'ils ont des bacs, ces choses-là, mais avec des temps d'arrêt, des temps de retour.
Des mises en question, des remises en question.
Absolument. Puis vraiment, puis d'avoir vécu, tu sais, de voyager, c'est voyager sur le party, puis d'aller vivre à l'étranger, c'est autre chose.
Oui, absolument.
Puis les deux ont vécu à l'étranger dans différents pays, pas facile. Colombie.
Des nouveaux amis, il faut que tu te refasses des amis. C'est du réseautage en crif, ça. Mm-hmm.
Vraiment, hey. Vraiment. Puis, tu sais, la diversité, là. La diversité, l'inclusion, et tout ça, là, aujourd'hui, eux autres sont là-dedans.
Ça dérange plus, là.
Vraiment pas.
Ben non,
vraiment
ben non, ben non.
Puis est-ce qu'il y en a un des deux qui a voulu faire un parcours aussi au niveau d'ingénierie?
Surtout pas.
Surtout pas. C'est trop fou, ça. Je veux pas vivre ça.
Puis, ce qu'ils ont eu de la difficulté à comprendre aujourd'hui, je pense qu'ils comprennent un peu plus, c'est de dire, pourquoi tu t'en vas pas? Tu sais, pourquoi t'es resté là pendant toute cette...
Puis, t'es resté dans la jungle, tu dis, je vais
exactement.
Être
ce que je leur ai toujours dit, c'est... Puis là, je fais beaucoup d'analogies avec le sport. On perd 7-0, il y a deux périodes, on est au hockey.
Ben oui.
Puis je suis le coach, puis je suis dans la chambre, puis je m'en vais. Mm. Ben, on va finir la game, puis après ça, je m'en irai ou
ben
pas.
Oui,
mais je vais me rendre jusqu'au bout.
Ben
donc, pour moi, ça, c'était... Mm. Puis en même temps, c'est une école de vie, hein. C'était de regarder le bonhomme puis de dire, il a fait ça, il s'est bien lâcheux, donc ça
Est-ce que
ça
tu te servais à la fin, Alex, là, des derniers moments, là, est-ce que tu étais conscient dans le tourbillon que tu étais, tu disais, je suis en train d'apprendre, là. L'amenez-moi-en encore, là, parce que je t'en... Tu sais, des fois, on est, comme entrepreneur...
C'est plus le recul, hein, qui fait ça. Hein.
Mais à un moment donné, tu t'es arrêté, là.
Ouais, tu dis, là, j'en prends plus.
Ouais, c'est ça.
Parce que...
Mais c'est quand même de la belle expérience. On se le cachera pas. On se le cachera pas. Tu serais pas le gars que t'es aujourd'hui si t'avais pas passé à travers tout ça.
Non, vraiment pas.
Tu sais, c'est niaiseux, hein, des fois,
on se dit... Justement, parlant du gars d'aujourd'hui, c'est qui maintenant, Alex? Comment va l'entreprise? Comment les projets se passent? On parlait que vous êtes ouvert sur... Des visions différentes, un petit peu plus vers les préoccupations de 2023.
L'écologie.
Est-ce que vous avez... c'est quoi votre vision? Est-ce qu'un jour, toi, tu veux prendre ta retraite? Est-ce que... Comment tu...
Trop jeune.
J'ai dit un jour.
Ah, OK.
Là, vous posez beaucoup de questions. Là. Je ne sais pas laquelle répondre, mais je vais vous...
Mais on te laisse aller, go with the flow.
Parfait.
On suit le flow. Hein.
On suit le flow, nous autres.
À travers les années, on a une équipe extraordinaire en place aujourd'hui, qui me permet d'avoir du temps.
Pour venir dans la jungle des affaires.
Ouais, pour venir dans la jungle, c'est ça.
Ça, c'est précieux.
Ça, c'est vraiment précieux. Vraiment une équipe de haut niveau. Tout le monde est mobilisé. Donc, pour une cause, la même vision. C'est ce qui est vraiment, vraiment intéressant chez nous, c'est que tu parles à l'équipe de direction, peu importe, c'est la même réponse. C'est toujours parce qu'on a cette cohésion-là. Exactement.
Wow, c'est assez rare aujourd'hui.
Ouais, six règles.
C'est exactement ça. Deuxièmement, on a un plan d'affaires qu'on réalise tout le temps et avec une vision, puis on est là-dedans. Donc, on est là-dedans, mais on est avant-gardiste. T'sais. On a parlé de l'environnement, toute la responsabilité sociétale, la gouvernance. On a une certification qui, si vous fouillerez là-dessus, ça s'appelle B Corp. La certification B Corp, c'est des entreprises.
C'est mondial, ça. Hein?
C'est mondial. Mmh. Il y a 6000 entreprises à travers le monde. Patagonia, c'est 6000 à travers le monde, c'est pas beaucoup. Mais c'est vraiment des entreprises qui ont un impact sur la société.
Et
une reconnaissance. Donc, on est la première firme d'ingénierie au Canada à avoir ça.
Wow.
Une des seules en Amérique. Donc, ça, tu sais, c'est tout ce cheminement-là qui fait en sorte qu'on a cette reconnaissance-là.
On a des gens qui sont venus ici, je ne me rappelle pas du nom, malheureusement, ils nous ont parlé de ça. J'aimerais ça que tu l'expliques. Parce que c'est un genre, nous autres, dans le vieux jargon, on disait ISO 9000 dans le temps.
Ouais.
Mais là, on va parler de personnes culturelles, intraculturelles. J'aimerais ça que tu nous l'expliques comme il faut pour le bien des auditeurs.
Il y a 5 piliers au niveau de B Corp. Dans un premier temps, c'est comment tu traites tes employés.
Exact.
Comment tu traites tes fournisseurs? Comment tu as un impact au niveau de la société?
La société.
C'est quoi ta gouvernance d'entreprise? Puis comment au niveau de l'environnement?
L'environnement.
C'est ça. Donc, c'est ces 5 piliers-là. Et tu as une évaluation qui se fait, tu as un pointage. Puis à toutes les 3 ans, tu es réévalué.
Mm-hmm.
Puis il faut que tu t'améliores. Si tu ne t'améliores pas, tu perds ta certification.
C'est out, oui.
C'est vraiment...
Tu n'es pas certifié à vie, là.
Non, pas du tout. Tu es tout le temps recommencé. Puis ce que ça fait, c'est ton modèle d'affaires à impact. C'est là que ça se passe. Puis nous, notre modèle d'affaires, un peu ce que je vous mentionnais tantôt, c'est de dire, tous nos projets maintenant, on identifie, au-delà de faire tel projet, ça coûte tant, on vient identifier sur quel impact qu'on a sur un de ces 5 piliers-là, sur chacun des projets qu'on fait. Je peux juste vous dire une affaire, là, sur les nouvelles générations, parce que là, j'ai plus le droit de parler des milléniaux, mes gars m'ont dit, non, il y a d'autres générations. Donc, sur les nouvelles générations, ça a vraiment un impact important. Parce que tu travailles au-delà de projets, tu travailles pour une cause.
Mmh.
Donc, ça, c'est intéressant. Et le deuxième, c'est de dire comment je donne une vie additionnelle à ta bouteille d'eau qui est là, mais sur les infrastructures qui vont avoir un impact. Donc, tout est là. Et ça, cette certification-là, elle vient juste flasher, mettons, de dire, hey, eux autres, ils sont là, ils sont rendus là. Donc,
c'est comme les immeubles LEED, l'immobilier.
Ben, exactement
autres...
ça.
Mais c'est quand même fascinant parce que, tu sais, si j'aurais un slogan pour Alex, c'est de Charbonneau à B Corp, c'est quand même une belle évolution, hein?
Ça serait pas pire. Ouais,
c'est quand même haut. Assez impressionnant.
Mais moi, je trouve que ça donne encore trop d'importance à M. Charbonneau.
Relativiser, c'est... Tu sais, quand même, une entreprise qui était comme mise sur la sellette, pointée du doigt, qui était comme mal vue. Puis là, tu sais, aujourd'hui, qui a redoré son image au niveau, tu sais, international. Tu sais, c'est vraiment génial. Voilà. Bravo.
Dirais-tu aussi, Alex, vous êtes peut-être en mode acquisition? Parce que je touche-tu quelque chose, moi,
absolument.
Là? Parce que Planifica, c'est récent, là.
Exactement ça. Écoutez, on a fait deux et dans notre modèle, ce qu'on fait, on amène l'intelligence artificielle. On parle tout d'intelligence artificielle. Il y a un an et demi, on a acheté une petite entreprise de Québec, une start-up qui s'appelait BEAP, qui sont des spécialistes. Donc, eux se sont joints à nous pour développer, on a développé une plateforme qui s'appelle Stellar, donc Stellar, sur des modes prédictifs sur le vieillissement des actifs.
Mm-hmm.
Donc, avec une connaissance, c'est que là, on a des modèles qui, on va faire de la reconnaissance sur des photos, de déterminer le niveau de dégradation d'une fissure dans une colonne ou dans n'importe quoi, une cheminée. Tout ça, tous ces actifs-là. Donc, ça, c'est la première. Deuxième, c'est Planifica, une autre entreprise de Québec, spécialisée, lui, au niveau de la durabilité, mais des bâtiments.
Okay.
Donc, il vient se combiner à nous. Là, on est à discuter avec un autre groupe qu'on espère annoncer d'ici une couple de mois. Donc, on va devenir pan-canadien. Donc, ça devient intéressant. Partenaire aussi de croissance qui vient. Donc, on a un plan d'affaires vraiment intéressant.
Ça bouge, là.
Ah oui, ça bouge beaucoup, avec une belle visibilité pour le futur. Puis,
c'est le temps d'acheter des actions, là.
Oui, mais c'est des employés. Hey, ça, c'est bon, ça, ta barouette.
En tout cas.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Non, c'est ça. Moi, j'ai le droit.
Oui, c'est ça. Exactement ça.
Non, je trouve ça le fun parce que tu as des gens aussi dans ton équipe qui ont eu des belles nominations. J'ai vu ça passer aussi.
Oui.
Mercuriade.
Ah oui. Eh hey, ben oui, ça, c'est une parce femme.
Moi, je les suis, là. C'est vrai, ça. Les Mercuriades, puis ici, les Pléiades.
Les Pléiades, oui, c'est ça, exactement.
À Lévis, puis à Québec.
Il y a une couple d'années, on a gagné saine gouvernance. Donc, ici, à Québec, hein, dans notre château fort. Donc, après avoir été un peu charbonneau, on est l'entreprise identifiée comme la meilleure entreprise en saine gouvernance au Québec. Ça, ça a été le premier des reconnaissances.
Félicitations.
Merci.
Non, mais il faut le prendre. Tu sais, oui. On se fait lancer des roches.
Oui, oh oui.
Mais
vraiment.
À un moment donné, on peut prendre aussi la.
On peut se faire lancer des fleurs.
Exactement.
On peut se faire lancer
ça.
Des étoiles.
C'est ça. Filante en plus. Hein.
Ah, oui. Filante, oui, ça, elle est filante pas mal.
Et là, dernièrement, au Mercuriade, on a une femme d'exception qui s'appelle Sophie Boisvert.
Oui.
Qui est un feu d'artifice.
Ben oui.
Sophie, ça fait 12-13 ans qu'elle est avec nous, 2010.
Toutes les entreprises la veulent.
Ah oui.
Elle le sait. Hein?
Ah oui, elle le sait à part ça. Mais c'est que des fois, là, ça va trop vite dans sa tête. Il faut essayer de la suivre. Puis là, elle fait des petits bruits, comme ça, puis là,
elle revient.
Mais c'est exceptionnel. Donc, Stellar, c'est son idée à la base. Parce que Sophie, c'est une spécialiste reconnue en gestion d'intégrité des actifs mondialement.
Ah oui.
Et elle, ce qu'elle disait, elle ne parle pas de retraite. Elle dit, moi, je rêve d'un jour d'être sur ma chaise berçante. Puis au lieu de dire, elle dit Siri, c'était dit Sophie.
Ah oui?
Oh,
c'est ça,
Dieu.
C'est de
les
là que vient.
Les gens vont vouloir y parler
ah,
à
oui,
Sophie.
Ah oui, dit Sophie. Qu'est-ce qui se passe dans un cas de dégradation du pont de Québec, de telle colonne? Bien, Sophie va le dire. Ah, donc, bon. Et c'est de là qu'est venu Stellar. Donc, c'est là qu'on développe. C'est Sophie. Puis c'est une femme qui est impliquée socialement. Puis ouais. Écoute...
Alex, j'avais une question pour toi parce que moi, je suis une femme en affaires. J'ai été confrontée à justement être dans des boys clubs. Puis tout à l'heure, je t'ai entendu, je ne sais pas si c'était en pré-entrevue ou pas, je me suis retrouvée à une table dans le boys club. Puis c'est venu me chercher ou m'interpeller dans le rôle de la femme, tu sais, dans un milieu masculin. Tu sais, on sait la construction, la commission Charbonneau, on a vu vraiment plus un milieu qui est dominé par la gente masculine. Là, on a parlé de Sophie qui a de l'air être une star chez vous, c'est quoi la place de la femme dans votre entreprise? Je te pose la question.
Okay. La place de la femme est la même que la place de l'homme.
Yes.
Chez nous, on ne se pose pas cette question-là. Meilleure personne dans la meilleure chaise, c'est ce qu'on recherche, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, si tu regardes au niveau démographie, dans le domaine de l'ingénierie, quand j'ai fini mon bac, là, il y avait deux filles pour 80 gars.
Ben oui.
Bon, tu sais, dans mon année.
Ben
aujourd'hui,
oui.
On était de bas à 20-25 %. Aujourd'hui, je te dirais que dans notre équipe de direction, là, c'est 40 % des femmes. Notre conseil d'administration, 40 % des femmes. Donc, on...
C'est pas voulu, là. Vous y allez avec les meilleures personnes.
On y va avec les meilleures personnes.
Ben,
exactement,
c'est
ça.
Ouais,
c'est vraiment ça. Parce que ce qu'on apprend, hein, c'est avec les années, tu sais, c'est la diversité, là. C'est là que tu vas créer ta meilleure richesse. Veux pas, on pense pas pareil.
Ben oui.
On réfléchit, on aborde les sujets de façon différente. Si tu veux avoir une couverture 360 degrés sur tout, là, mix ça, puis amène... Puis je fais juste un aparté, mais j'ai été invité à quelques reprises de faire partie des clubs de dirigeants. Là, puis je leur demande, OK, es-tu des femmes? Oui. Au niveau culturel, on est pas mal caucasiens. Non. Non. Pour avoir travaillé beaucoup à l'étranger...
Ouais. T'as une ouverture.
Une ouverture.
Puis il y a du potentiel en crème aussi. Là, les gens se limitent pour rien.
Ben, c'est en plein ça. Parce que, tu sais, souvent, ce que je dis, puis là, on pensait, mettons, aux nouvelles générations, là, t'es toute une gang de bonhommes, là, puis tu sais, on pense. C'est quoi qu'ils pensent, eux autres, là? Amène-les à la table, là. Nous autres, chez nous, là, on a un conseil d'administration, un conseil d'administration fantôme. C'est des gens de 35 ans et moins. On dit, vous êtes un conseil d'administration, définissez votre agenda, définissez des priorités, puis venez nous parler.
Mais c'est génial, c'est le fun de le... Vraiment...
Il y a beaucoup d'écoute.
Oui, c'est agréable d'entendre quelqu'un... c'est inspirant, c'est le mot que je cherchais, tu sais, de voir que tout le monde est égal. C'est vraiment beau de voir ton parcours, puis c'est le fun aussi de voir l'humilité dans laquelle tu nous le racontes. Je sais qu'on s'enligne vers la fin. Je sais pas si Réjean, t'avais
ben,
comme...
Moi, ce qui ressort beaucoup depuis le début, puis tu l'as dit, Marie, tantôt, d'abord, on a un gars d'affaires, un gars qui a passé des tempêtes, mais qui témoigne de ses erreurs. Il réalise qu'il a fait des erreurs. On en fait tout le monde.
Ouais.
Moi, ce que j'aime d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de me dire « Hey, moi, je suis tombé à terre, je me suis relevé. » Puis c'est de même que ça s'est passé. Si tu prends nos amis américains, aux États-Unis, quand t'as fait une faillite, t'es une star. Ici, quand tu as fait une faillite, tu es un loser.
Ouais.
On va dire ici, quelqu'un de riche, il est crosseur.
Ouais.
Là-bas, on va dire, waouh, ben, t'es peu. Il gagne juste 200 millions par mois. Ben, il va peut-être en gagner 400 par mois. Il n'y a pas de limite. Fait que moi, j'aime ça, ce que j'entends. Puis l'autre affaire que j'aime beaucoup, Marie, si tu me permets, c'est tu vois que l'entreprise, ils sont à l'écoute du personnel. Mm. Tu as souligné 3-4 fois, Alex, dans l'entrevue que. On les a posé des questions, on a fait un groupe avec eux autres, on les a réunis, on les a demandé, écrivez-nous. Alors, d'être à l'écoute de tes employés, ça, je pense que les entrepreneurs, vous nous écoutez présentement, là, ça se passe là. Ça donne à rien d'acheter un panier de basket pour la gang qui joue au basket sur l'heure du midi. Tu le sais pas s'ils aiment ça, jouer au basket. Demande-leur.
Exact.
Tu sais, fait qu'en tout cas.
Ben merci. Moi, c'est mon vraiment, c'était vraiment un coup de cœur pour moi.
Ben ouais. Oui.
Très agréable de la rencontre. Je pense qu'il va falloir te réinviter.
Vous m'aviez mis beaucoup de pression, hein, parce que votre rencontre de ce matin avait été exceptionnelle. Donc là, j'étais un peu nerveux, là, mais je pense que j'ai
livré. Ça a bien été. C'est parce qu'on a parlé de maladie, on a parlé beaucoup de... Tu sais, toi, tu as vécu des obstacles au niveau professionnel. Ouais. Il y a des gens qui vont vivre des obstacles au niveau amoureux, au niveau conjoint, au niveau... Il y en a d'autres, c'est la santé. Donc ouais. Mais ça nous bouleverse tout le temps parce
que... Chacun a une histoire.
Ben oui, parce que nous, on est des animateurs, mais on est aussi des entrepreneurs. Ouais, fait que, tu sais, on se dit, hey, tabarnouche, tu sais... Fait que, mais écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis merci aussi de ta belle présence.
Mm. C'était un grand plaisir, puis je vous souhaite un gros commanditaire.
Oui, merci beaucoup. Ça sera le fun. Si jamais tu penses à des amis,
oui,
là,
c'est ça.
Ton board de dirigeant d'entreprise, là, ce qui arrive, c'est qu'on veut donner un deuxième élan. Au podcast dans la jungle des affaires. On rencontre tellement des belles personnes. On fait tellement des beaux partages sur le web. Là, on s'est dit, ben. Parce que c'est des frais, hein? Les gens qui pensent là, faire un podcast, c'est pas de frais, t'es peu, là. Tu sais, commence-le chez vous dans ton sol, puis tu m'en parleras après comment ça marche un podcast. Tu vois qu'il y a des frais. Alors, c'est ça qui est le fun, mais là, on a une belle un bel auditoire, devrais-je dire. Donc, c'est le temps de se coquiner avec un commanditaire. Marie, merci.
Et merci, toujours un plaisir.
Ben oui, merci beaucoup d'être venu, même si tu dis à Alex que j'étais ton bouche-trou. non, je t'agace.
T'es mon bouche-trou préféré.
Non, je sais que t'es venu parce que tu m'aimes. Tu me l'as déjà dit, puis t'es gentil. Merci, Alex. Beau témoignage, belle entrevue, super, comme on dit, coup de cœur. Je suis persuadé, je vais recevoir des beaux courriels là-dessus. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on aura du plaisir.
Merci d'avoir écouté La jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.